Et l'on débute par le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Sa vie avait épousé toutes les convulsions du XXe siècle. La cinéaste Marceline Loridan-Ivens, camarade de déportation de Simone Veil pendant la Seconde Guerre mondiale dans le camp d'Auschwitz-Birkenau, est morte à Paris, vous le disiez Guillaume à l'instant, à l'âge de 90 ans.
Une audition sous haute tension au Sénat. Alexandre Benalla, mis en examen pour avoir malmené des manifestants en marge des défilés parisiens du 1er mai, est entendu ce matin par la commission d'enquête sénatoriale.
Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent aujourd'hui à Salzbourg, en Autriche, pour un sommet largement consacré aux migrants. Les 28, toujours divisés sur la question. Pendant ce temps, sur l'île de Lesbos, en Grèce, 9000 demandeurs d'asile se trouvent entassés dans des conditions sordides. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme.
Et puis, dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, plan santé, que va changer la fin du numerus clausus? Nous poserons la question à Antoine Pellissolo, psychiatre et chef de service au CHU d'Henri Mandor à Créteil.
Je suis née tout de suite, rousse, gauchère et juive.
C'est par ces mots que Marceline Loridan-Ivens se présentait dans son livre de mémoire « Ma vie Balagan » et au tout début aussi de la série « Avoix nues » sur France Culture, entretien avec Gila Lustiger en 2012 pour revenir sur une vie qui a épousé toutes les convulsions du XXe siècle. Marceline Loridan-Ivens est morte hier à Paris à l'âge de 90 ans. Cinéaste, actrice, auteure, féministe, déportée à l'âge de 15 ans, survivante d'Auschwitz-Birkenau, camarade de déportation de Simone Veil. Marceline Loridan-Ivens n'avait jamais oublié les gestes qui lui ont permis d'échapper à l'extermination des Juifs dans les camps nazis.
Quand j'étais très gravement malade au camp, où j'avais ces fameuses crises de fièvre terribles, de plus de 40 de fièvre, j'avais tellement peur d'aller au crématoire que je préférais quand même travailler, que j'avais des copines qui, quand on faisait l'appel, elles me mettaient des briques pour que je ne sois pas au premier rang. Pour que je paraisse plus grande, et elle me soutenait, une copine me soutenait le dos pour que je m'effondre pas quand il y avait les ASS qui arrivaient pour nous compter. C'est le moment où, même dans le travail, des copines ont réussi à trouver un trou. Il y avait un trou là où on était, puis il y avait une planche, et elles me cachaient, je me mettais dans ce trou avec la planche dessus pour me reposer au moment où j'étais mourante, ou le moment où je suis tombée dans le camp, dans la pluie, dans la boue, et où une main s'est tendue pour m'aider à me relever. C'est ça les gestes.
Marceline Loridan-Ivens, qui à son retour de camp adhère brièvement au Parti communiste, devient porteuse de valises pendant la guerre d'Algérie, l'une des 343 salopes signataires du manifeste de 1971. Sa rencontre avec le réalisateur de documentaire Joris Ivens est décisive. Ensemble, ils partent dans le Vietnam d'Ho Chi Minh et succombent au charme de la révolution culturelle en Chine. Marceline Loridan-Ivens, toujours à la rencontre des opprimés, portée, dit-elle, par un élan vital.
Moi, j'ai été obligée de l'éprouver presque toute ma vie. Et c'est quelque chose qui n'est jamais raisonné de ma part, qui est une sorte d'instinct, qui n'est pas toujours conscient, qui me vient comme ça, dans la rapidité de l'esprit, ou face à une situation concrète, et qui est toujours là. Et ça, c'est la force de beaucoup d'anciens déportés. Parce que d'une certaine manière, on n'est pas comme les autres.
Marceline Loridan-Ivens, qui est morte hier à l'âge de 90 ans, jumelle contradictoire de Simone Veil. C'est un article à découvrir en longueur sur franceculture.fr avec la série d'Avoix nues, entretien avec Gila Lustiger dont nous venons d'entendre des archives. Lui avait prêté ses yeux bleus et sa voix chaude à Cyrano sur les planches et à Robert d'Artois à la télévision. Monstre sacré du théâtre, Jean-Pia est mort hier à quelques jours de fêter ses 94 ans. Jean-Pia qui a marqué les mémoires dans le feuilleton Les Rois Maudits à la télévision.
7h04 sur France Culture, la suite des matins avec le journal de Catherine Dutu. Quel était le rôle précis d'Alexandre Benalla auprès d'Emmanuel Macron?
C'est ce que la commission d'enquête sénatoriale va demander à l'ancien collaborateur du chef de l'État, 2 mois après la diffusion de ces images où l'on voit Alexandre Benalla molester un manifestant le 1er mai dernier à Paris. L'ancien chargé de mission auprès du cabinet de la présidence est entendu à partir de 8h30 ce matin, audition à suivre en direct sur Public Sénat. Grand déballage ou silence, l'affaire Benalla empoisonne déjà la vie de l'exécutif à plus d'un titre, Stéphane Robert.
Cette affaire Benalla s'avère être en premier lieu un sérieux coup de canif à la République exemplaire mise en avant par Emmanuel Macron. C'est en vertu de cette promesse de faire de la politique autrement qu'il avait fait voter la loi de moralisation de la vie publique et que François Bayrou, Marielle de Sarnez, Sylvie Goulard avaient démissionné du gouvernement à cause de l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. Un an plus tard, avec l'affaire Benalla, il apparaît qu'Emmanuel Macron a peut-être non seulement fermé les yeux sur les agissements coupables d'un de ses proches, mais aussi qu'il semble prêt à le défendre envers et contre tout, quitte à installer le doute dans l'opinion sur sa volonté de faire respecter les règles, le droit et les institutions. Et puis, l'autre complication que constitue cette affaire pour le chef de l'État est qu'elle a mis en lumière la potentielle utilité du Sénat dans son rôle de garant et de contrôle du bon fonctionnement des institutions. Le Sénat a repris du lustre aux yeux de l'opinion, alors que jusqu'ici, il renvoyait l'image d'une institution vieillotte qui coûte cher à la République et qui n'est pas forcément utile. Désormais, beaucoup se disent que même si les sénateurs, comme l'affirment les proches du chef de l'État, font un peu de politique politicienne et tentent de pousser l'exécutif à la faute, cette bonne guerre est qu'ils rendent malgré tout service à la société française. Dès lors, on peut se demander s'il est légitime de relancer la réforme des institutions qui prévoit de réduire drastiquement le nombre de sénateurs et donc potentiellement d'affaiblir le Sénat. Et puis, au bout du compte, se pose aussi cette question de manière de plus en plus lancinante. Pourquoi donc le chef de l'État semble-t-il s'entêter à vouloir coûte que coûte protéger Alexandre Benalla ?
Et un nouveau coup dur pour Emmanuel Macron, le départ annoncé de Gérard Collomb du gouvernement après les européennes de mai 2019. L'actuel ministre de l'Intérieur veut se présenter aux municipales à Lyon après François Bayrou, Nicolas Hulot et quelques autres. C'est un nouveau poids lourd qui allège le dispositif présidentiel sur lequel il faut désormais apposer l'étiquette « attention fragile », commente Laurent Geoffrin ce matin dans son édito à Libération. Dans le Figaro, Guillaume Tabar rappelle lui que Gérard Collomb n'est pas n'importe qui dans le dispositif macronien. La démission annoncé du premier démarcheur vient, selon le chroniqueur politique, refermer la page du chapitre heureux du macronisme. La majorité présidentielle qui peut désormais compter sur un homme de consensus à la tête du groupe LREM à l'Assemblée nationale, le député de Paris, Gilles Legendre, a été élu haut la main hier par les 311 députés marcheurs. Ovationné par ses collègues et félicité par le Premier ministre, Gilles Legendre a vanté dans sa première question au gouvernement les plans anti-pauvreté et santé de l'exécutif. C'est de la justice sociale, a-t-il déclaré. Et justement, l'une des mesures annoncées hier par Emmanuel Macron pour réformer notre système de santé, c'est la fin du numerus clausus pour les étudiants en médecine à partir de 2020. Double objectif, augmenter le nombre de futurs médecins et mettre fin à une sélection drastique sur des critères pas toujours pertinents à leur choix.
Changer le mode de sélection et de formation des futurs médecins, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est désormais un objectif clair et c'est ce que retient Jean-Baptiste Bonnet, président de l'ISNI, l'intersyndicale nationale des internes.
La grande annonce du président de la République, c'est d'avoir dit que dans les études de médecine, on construisait par ces études et par les biais de ces études les problèmes de territorialité que l'on retrouve aujourd'hui. Il faut pouvoir diversifier ces profils. Il faut qu'on ait des jeunes médecins qui aient appris à travailler avec d'autres professionnels de santé. Quand on est sélectionné, quand on est médecin, il faut qu'on puisse aller voir ailleurs que le centre hospitalier universitaire pour la formation. Et il faut que les internes en médecine aillent faire au moins un stage en médecine libérale au cours de leur internat.
Des internes qui restent vigilants, augmenter le nombre d'étudiants en médecine, certes, mais les facultés sont déjà surchargées. Par ailleurs, il faudra des moyens pour permettre aux futurs stagiaires qui iront dans les déserts médicaux de se loger et de se déplacer. Mais tous, en tout cas, apprécient la volonté présidentielle de ne rien imposer par la contrainte. Yannick Schmitt du syndicat Réagir, syndicat de jeunes médecins installés et remplaçants.
Bravo effectivement pour cette prise de position courageuse parce que derrière il va falloir assumer auprès des maires des petites communes qui sont très en demande. Maintenant il va falloir davantage raisonner sur un territoire qui sera peut-être celui d'une intercommunalité et qui effectivement suppose que les médecins généralistes en particulier prennent leurs responsabilités pour répondre aux besoins de la population et on va être accompagné pour le faire, ce qui est une bonne chose.
De jeunes et futurs médecins qui se disent donc prêts à prendre leurs responsabilités et qui attendent de voir concrètement si l'ambition présidentielle va se traduire en actes.
Que va changer la fin du numerus clausus ? C'est la question du jour que vous poserez Guillaume Erner juste après ce journal au psychiatre Antoine Pellissolo. Le leader nord-coréen Kim Jong-un annonce ce matin qu'il compte effectuer une visite historique à Séoul dans un avenir proche. Déclaration à l'issue d'un sommet à Pyongyang avec le président sud-coréen Moon Jae-in. Ce dernier a par ailleurs indiqué que la Corée du Nord avait accepté de fermer de façon permanente son site de test moteur de missiles de Sohae et le pas de tir de Tongchari en présence d'experts des nations concernées. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne se retrouvent à partir de cet après-midi à Salzbourg, en Autriche, pour un sommet largement consacré aux migrants. Les 28 sont toujours partagés entre ouverture, fermeté et fermeture des frontières. Pendant ce temps, urgence sanitaire dans l'un des plus grands camps de candidats à l'asile sur le continent européen, le camp de Moria, sur l'île grecque de Lesbos, où 9000 personnes se trouvent actuellement pour 3000 places normalement. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme, Marie-Pierre Véroux.
Le désespoir gagne les milliers de demandeurs d'asile bloqués à Lesbos, devenue une île prison depuis l'accord UE-Turquie de mars 2016 qui a fermé les routes vers le continent européen. Le tri et l'examen des demandes d'asile doivent s'effectuer sur les îles grecques, mais malgré ces promesses, l'Europe n'a pas donné à Athènes les moyens de faire face. Résultat, les migrants arrivant à Lesbos, essentiellement afghans, syriens et irakiens, très marqués par les violences qu'ils ont fui, sont parqués dans le camp de Moria. La plupart dorment sous des bâches, avec une douche pour 70 personnes, un accès plus qu'aléatoire à un médecin ou un interprète pour leur demande d'asile, bloqués donc sans aucune perspective et dans une grande promiscuité. Un tiers de ces 9000 migrants sont des enfants de moins de 12 ans. Le niveau d'urgence sanitaire n'a jamais été aussi élevé, selon Médecins sans frontières. Aurélie Pontieux est coordinatrice pour les affaires humanitaires.
On voit des enfants qui souffrent de plus en plus de problèmes de santé mentale, des gros problèmes d'anxiété, on a des cas d'automutilation, des tentatives de suicide auprès de jeunes enfants qui est vraiment très inquiétant et complètement anormal pour cette population-là. Des enfants qui sont confrontés à de la violence quotidienne, il y a des gens qui se battent tous les jours pour avoir de la nourriture, il y a des queues de 2-3 heures à chaque repas et on a de plus en plus de cas de violence sexuelle aussi. Cette situation de violence pratiquement institutionnelle, elle est exacerbée par ce système, mais elle est aussi rendue possible par ce système parce que c'est parce qu'on a autant de personnes accumulées les unes sur les autres dans ce hotspot qu'on a cette situation de violence, cette insécurité, et c'est le résultat de cette politique.
Une politique que l'Union européenne voudrait répliquer avec des centres de tri fermés à l'arrivée des bateaux traversant la Méditerranée. Le camp de Moria illustre à quel point cette approche peut se fracasser sur la réalité comme une terrible incarnation des conséquences de l'incapacité des Européens à être solidaires dans l'accueil.
Le temps de ce mercredi 19 septembre, ensoleillé sur la moitié nord, un peu plus voilé au sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 22 et 27 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone, comptez de 27 à 31 au sud.